Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos. Tous ensemble, ce soir, face à la crise du pouvoir d'achat, RTL continue d'interroger les prétendants à l'Elysée. Yannick Jadot sera l'invité de 18h15. Le candidat écolo à la présidentielle nous présentera ses propositions pour limiter la hausse des prix du carburant, du gaz, de l'énergie. Fin du monde, fin du mois, peut-on vraiment mener de front les deux combats? On lui posera la question. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Après l'affaire centrale Supélec, l'enseignement supérieur face aux violences sexuelles, une parole qui se libère, une sensibilisation qui, ça et là, se met en place et un plan d'action attendu la semaine prochaine. Dans ce journal aussi, les dernières projections de l'Institut Pasteur sur l'épidémie de Covid et puis le démantèlement du plus gros réseau de trafic de drogue en Normandie, une dizaine d'interpellations, dont la maire d'une grande ville. Les courses dans le Quintet Plus à Vincennes en nocturne. Dominique Cordier vous recommande ce soir de jouer le 9, le 5, le 16, le 10, le 7, le 3, hélas.
Dans une demi-heure à 18h30, les dessous de l'actu. Faut-il craindre un Polexit? La Pologne peut-elle sortir de l'Europe? On va s'interroger. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière avec un spectacle complètement dingue tout à l'heure à la Comédie Française. À 18h40, on va refaire nos régions. Comme chaque vendredi, vos 20 minutes curieuses, gourmandes, près de chez vous. Au menu, la ligne à grande vitesse de la discorde dans le sud-ouest, des quenelles dans un bouchon lyonnais et une interview évasion. Jérémy Florès, le meilleur surfeur français de tous les temps, va nous emmener à Tahiti. À 19h15, ils refont la France, des journalistes étrangers qui scrutent notre actu bien bleu, blanc, rouge. Autour de vous, Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Le programme.
Bon, on parlera bien sûr toute l'actu de la semaine. Gastronomie aussi, la France est-elle toujours capitale mondiale en la matière? C'est pas gagné.
Ça se discute. On en discutera tout à l'heure. 19h15. Des points réguliers sur le temps avec vous, Valérie Quintin. Bonsoir.
Bonsoir.
Quelle est la tendance?
Ce sera pas mal demain, excepté des Pyrénées aux Alpes et à la Méditerranée. Ça pourrait même aller jusqu'à l'averse en Corse. Pour tous les autres, ce sera du beau temps.
On vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal. Julien Cellier. Marion Calais.
Et à la une ce soir, l'optimisme, c'est assez rare donc il faut le souligner, de l'Institut Pasteur sur l'évolution de l'épidémie de Covid.
Optimisme prudent, dit l'organisme de recherche, qui écarte a priori pour les prochains mois tout risque de nouveau couvre-feu ou de confinement à Virginie Garin.
Oui, grâce au vaccin, la quatrième vague est désormais derrière nous. Le taux d'incidence baisse pour la 10e semaine consécutive dans toutes les régions. Alors les chiffres remontent un peu dans quelques départements comme la Mayenne, mais l'épidémie y était très faible et il suffit d'un cluster pour que le taux d'incidence reparte légèrement à la hausse. Seule la Guyane reste dans un état critique, même si là aussi le nombre de cas a baissé de 8% depuis une semaine. Donc l'Institut Pasteur et Santé publique France affichent un optimisme prudent. Ce virus peut toujours révéler des surprises. Avec une couverture vaccinale élevée en France, il ne sera a priori pas nécessaire de réinstaurer un couvre-feu ou un confinement. Mais le froid revient, il faut plus que jamais respecter les gestes barrières, aérer, ce qui permettra aussi de limiter les autres épidémies comme la bronchiolite, la gastro ou la grippe.
Virginie Garin pour RTL, merci. Notez d'ailleurs que dans les écoles, le nombre de classes fermées s'affiche encore à la baisse. Plus de 1600 la semaine dernière, moins de 1300 classes fermées cette semaine. Une centaine de viols et d'agressions sexuelles rien que l'an dernier. Centrale Supélec secouée par les résultats d'une enquête interne. La justice désormais va enquêter.
Mais cette école d'ingénieurs est-elle l'arbre qui cache la forêt? Comment agissent aujourd'hui les établissements de l'enseignement supérieur face aux violences sexuelles? C'est ce qu'on a voulu savoir ce soir sur RTL. Bonsoir Aurélia Valarié.
Bonsoir.
D'abord, Centrale Supélec, c'est un cas isolé?
Eh bien non, pas du tout. On peut même dire que ça concerne quasiment l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur. Souvenez-vous en 2020 du scandale des instituts d'études politiques partout en France avec le hashtag Sciences Po. Il y a eu des cas similaires à l'université d'Avignon, de Lille, à l'école d'architecture de Montpellier. Beaucoup d'écoles de commerce sont aussi concernées. C'est ce que montre dans un rapport l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles. 10 000 personnes ont été interrogées sur l'année 2019. Un étudiant sur 20 se dit victime de viol. Et parmi les répondants, 22% viennent d'université, 17% d'écoles de commerce et d'ingénieurs ou encore 12% de facultés de droit.
Et Aurélia, aujourd'hui, aujourd'hui, quelles réponses sont apportées sur les campus et dans les écoles face à ces violences sexuelles?
Alors, ça fait plusieurs années que les établissements de l'enseignement supérieur se sont saisis du problème. C'est le cas notamment à l'EDEC, qui rassemble plusieurs écoles de commerce. Écoutez son directeur, Emmanuel Mété, au micro RTL de Franck Hanson.
La sensibilisation permanente, bien expliquer, faire venir des gens de l'extérieur, dont c'est le métier, des policiers, des magistrats, des sociologues, des psychologues. La deuxième chose, c'est l'écoute. Donc nous, on a monté une cellule d'écoute, on a des étudiants sentinelles qui sont là pour rapporter les problèmes, on a formé tout le personnel. Et puis enfin, le dernier volet qui est le plus important, c'est la sanction. Donc c'est que tout fait qui est rapporté à l'école fasse l'objet d'une enquête.
Et ce type d'enquête peut d'ailleurs mener à un signalement auprès du procureur de la République. Alors en plus de ces mesures, d'autres établissements font appel à des organismes extérieurs, comme l'association France Victimes, qui vient d'ailleurs de signer une convention avec Centrale Supélec suite à l'enquête. France Victimes apporte notamment une aide juridique et un exemple. L'antenne de l'association située à Strasbourg depuis 2019 a accueilli jusqu'à aujourd'hui plus de 200 étudiants qui se disent victimes de violences. Et enfin, du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, il y a eu la mise en place de référents égalité femmes-hommes, des missions de sensibilisation organisées tous les ans dans les universités. Et la semaine prochaine, la ministre Frédérique Vidal doit présenter un nouveau plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans les universités.
L'enseignement supérieur face aux violences sexuelles et sexistes, dossier signé Aurélia Valarier pour RTL. Merci Aurélia.
La mise en retrait du professeur Émile Daraille à l'hôpital Tenon à Paris, ce gynécologue spécialiste de l'endométriose est visé par une enquête judiciaire pour viol sur mineur de plus de 15 ans. Il n'officiera plus en tant que chef de service et responsable pédagogique, mais pourra toujours continuer à consulter. Le bras de fer promet donc de se poursuivre sur le secret de la confession. La République l'a toujours respecté, assurait hier le patron des évêques, qui ne veut pas voir lever la confidentialité des échanges. Ce secret est plus fort que les lois de la République, avait-il dit. Il s'en expliquera avec le ministre de l'Intérieur et des Cultes mardi. En attendant, aujourd'hui, c'est le garde des Sceaux qui, chez nos confrères de LCI, s'est invité dans le débat.
Si un prêtre reçoit dans le cadre de la confession, soit d'une victime, soit d'un auteur, c'est le gamin qui dit au prêtre « je suis victime en ce moment, tous les mercredis, d'un viol de la part d'eux ». Alors, il a l'impérieuse obligation de mettre un terme à ces faits. S'agissant du secret professionnel, il n'est pas absolu, comme d'ailleurs le secret médical en la matière. Il n'y a pas d'autre loi que celle de la République dans la République. Il faut être clair, il n'y a pas de loi de l'Église dans la République.
Le rappel d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, chez nos confrères de LCI ce soir.
Allez, dans un instant, la suite de votre journal avec un coup de filet anti-drogue impressionnant en Normandie et dans lequel une élue a été arrêtée. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
Et la suite de votre journal, 18h09 sur RTL de la mairie. Au poste de police, une élue normande a donc été arrêtée aujourd'hui lors d'une vaste opération anti-drogue.
Démantèlement du plus important réseau de stup dans la région et parmi les suspects, donc Guillaume Chiez, il y a la maire de la ville de Canteleu, près de Rouen.
Oui, cette élue de 44 ans faisait partie des cibles des enquêteurs rouennais qui sont intervenus ce matin à l'aube. Elle a été interpellée, placée en garde à vue pour complicité de trafic de stupéfiants. En clair, les enquêteurs ne la soupçonnent pas d'avoir activement pris part dans ce réseau. Ils cherchent en revanche à savoir si l'élue a pu faciliter l'implantation des trafiquants dans la zone en toute connaissance de cause. L'un de ses adjoints a lui aussi été placé en garde à vue. Cela fait 2 ans que les enquêteurs travaillent sur ce réseau à cheval entre la Seine-Saint-Denis et la région rouennaise. En tout, 19 interpellations et un coup de filet plus que fructueux. Les policiers ont saisi 375 000 euros en liquide, 15 kilos d'héroïne ainsi que de nombreuses armes à feu.
Les précisions de Guillaume Chiez pour RTL.
Un hommage national dans une semaine et un prix Samuel Paty. Le détail de ce concours de travaux pédagogiques au collège a été présenté aujourd'hui.
Pour que profs et élèves continuent de travailler sur les thèmes chers à cet enseignant assassiné l'an dernier, Christophe Capuano est l'un de ses amis. C'est lui qui présidera le jury de ce prix.
Le prix Samuel Paty, c'est un prix pour faire travailler les élèves sur la mission que menait Samuel. Et notre objectif, c'est de faire réfléchir les élèves avec le premier thème de cette année, sommes-nous toujours libres de nous exprimer? Nous souhaiterions que tous les professeurs puissent s'emparer de cette question, pas seulement les professeurs d'histoire géo. C'est extrêmement important parce qu'il y a un an, un enseignant, un professeur s'est fait assassiner. Ce n'est pas n'importe quel prix. C'est un prix qui renvoie à l'assassinat d'un professeur avec tout ce que ça représente de symbolique en termes d'atteinte à la République.
Christophe Capuano, micro RTL de Nicolas Burnand. L'appel du patron de l'ONU à un effort mondial pour protéger la liberté de la presse. Déclaration qui fait suite à l'attribution du prix Nobel de la paix à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa, arrêtée à de nombreuses reprises dans son pays, et le Russe Dmitri Muratov, rédacteur en chef du journal Novaya Gazeta, pour lequel travaillait notamment Anna Politkovskaya, cette journaliste assassinée il y a 15 ans.
Et puis, le dernier adieu à Bernard Tapie.
Oui, après une dernière messe, il a été enterré au cimetière de Mazargues, dans le sud de la ville. Et les supporters ont d'ailleurs déjà commencé, Étienne Baudu, à se recueillir sur sa tombe.
Oui, sur une tombe très simple d'ailleurs, à l'ombre des cyprès, au fond de ce petit cimetière de quartier. Elle est recouverte d'un tissu bleu, de trois maillots et d'une écharpe de l'OM et d'une multitude de bouquets de roses blanches. Evelyne habite le quartier et elle est particulièrement fière que Bernard Tapie ait choisi ce coin de Marseille pour y reposer à une papinade du stade Vélodrome.
Ivan. Entendre les cris. Et il se fait enterrer dans un cimetière de quartier parce qu'il était très humble, très accessible, moi je trouve. Et j'ai connu Sophie petite, sa fille. Mais de temps en temps, j'y viendrai, j'habite au Redon, moi.
Et à l'issue de la cérémonie, Sophie et Laurent, les enfants de Bernard Tapie, ont tenu à venir saluer tous ses admirateurs et remercier à travers eux tous les Marseillais.
Incroyable, on n'oubliera jamais. Merci.
Étienne Baudu, le reportage à Marseille pour RTL.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Ouais, je dirais même plus. La nouvelle formidable, Stromae, le chanteur belge, va faire son retour. Il sera à l'affiche du festival Rock en Seine fin août 2022. Lui qui, fin 2015, avait stoppé net sa carrière après 2 ans de tournée qu'il avait épuisé physiquement et psychologiquement.
Et on sent que ça vous réjouit, ce
ah
retour.
Oui,
vous avez déjà réservé vos places, Marion?
Pas encore,
ça ne saurait tarder. Le temps, chère Valérie, c'est formidable, là aussi?
Mais presque, en
presque.
Fait. Presque demain. Une fois qu'on sera débarrassé des brouillards matinaux, notamment sur la moitié nord, le soleil va s'imposer pratiquement partout, mais pas partout. Ce sera quand même passablement nuageux entre les Pyrénées, le Massif central, la région Rhône-Alpes, mais également entre les Alpes-Maritimes et la Corse. Et sur la Corse, ça pourrait même aller jusqu'à l'averse, près du relief l'après-midi. Les températures, elles seront fraîches le matin. On va partir de 4 degrés dans les Ardennes pour atteindre 15 degrés en Corse. Dans l'après-midi, 16 degrés à Belfort au plus bas, 24 degrés à Ajaccio pour la température la plus élevée, 18 à Colmar, 19 à Beauvais, 20 degrés à Paris et Rouen, 21 pour Cahors et encore 22 degrés à Perpignan.
Merci Valérie.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et maintenant, sur RTL à 18h13, nous allons nous interroger. Faut-il redouter un polxit? Est-ce que la Pologne veut sortir de l'Union Européenne? Alors non, répond aujourd'hui très officiellement Varsovie, mais le doute est permis parce que les faits contredisent quelque peu cette bonne volonté. Hier, le tribunal constitutionnel polonais, c'est-à-dire la plus haute juridiction du pays, a tranché. Le droit local prime sur le droit des 27. Pour mieux comprendre, on va poser 3 questions à notre brigade RTL. Bonsoir Bénédicte Tassard.
Bonsoir à tous.
Est-ce que la Pologne est en train de défier l'Europe?
Ah oui, cette fois l'âge de guerre est vraiment déterré. Vous savez, cette cour constitutionnelle polonaise, elle est principalement constituée de juges politiques nommés par les nationalistes du PiS, le parti au pouvoir, des juges qui n'ont pas hésité à remettre en cause l'un des fondamentaux de l'Union européenne. Étonnement aujourd'hui du commissaire européen à la justice Didier Reynders.
Vous ne pouvez pas vivre dans une union sans respecter ses principes. Ces principes, ils sont acceptés par les pays eux-mêmes. Je rappelle quand même que la Pologne, comme les autres États européens, a ratifié ces traités pour entrer dans l'union et donc a fait sienne les dispositions européennes. Et ces dispositions européennes, c'est bien sûr que le droit européen prime sur toute disposition nationale et que la Cour de justice rend des décisions qui s'imposent, qui doivent être appliquées.
Et maintenant, Bénédicte, comment contraindre la Pologne à faire marche arrière?
Alors, les sanctions sont maintenant attendues. Varsovie est convoquée devant la justice, mais on peut aussi s'attaquer à son porte-monnaie en la privant de subventions, notamment celle du grand plan de relance européen qui est en train d'être distribué chez les 27. Le gouvernement populiste polonais tiendra-t-il tête à Bruxelles jusqu'à risquer, vous l'avez dit, un polexit, un Brexit à la polonaise? On en doute fort. Le Premier ministre Morawiecki confirme aujourd'hui que la Pologne souhaite rester dans l'Union européenne. Et on rappelle quand même que 80% des Polonais ne veulent pas entendre parler d'une sortie.
C'est quand même important de le souligner. 80%. Les explications de Bénédicte Tassard. Merci la Brigade RTL pour vous servir chaque soir, chaque matin sur cette antenne. Une courte pause et ensuite Yannick Jadot sera notre invité dans RTL Soir. Est-ce que l'écologie peut être une solution face à la crise du pouvoir d'achat? Nous allons poser la question au candidat vert à la présidentielle. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. À 6 mois du vote, RTL Soir continue d'interroger les prétendants à l'Élysée. Alors ce soir, en pleine crise du pouvoir d'achat, notre invité Yannick Jadot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le candidat écologiste à l'élection présidentielle et nous allons nous interroger avec vous. Fin du monde, fin du mois, est-ce qu'on peut vraiment mener les deux luttes de front? Yannick Jadot, beaucoup d'éditeurs nous écoutent sans doute parce que c'est l'heure où l'on rentre à la maison en voiture en ce moment. 2 euros le litre d'essence dans certaines stations. À gauche, pas plus tard qu'avant-hier, ici en studio, Anne Hidalgo sur RTL, une de vos concurrentes, a proposé de baisser les taxes sur le carburant. Mesure d'urgence, dit-elle, pour une situation qui est exceptionnelle. Est-ce qu'elle a raison?
La proposition que nous faisons, la proposition que je fais, c'est d'élargir très largement le chèque énergie. Le chèque énergie, vous le savez, est un outil d'aide aux familles en difficulté pour faire face justement à ces coûts, pour faire face à cette crise de l'énergie. Ce que je propose, c'est de porter le chèque énergie à 400 euros supplémentaires dès maintenant pour les 5,8 millions de familles qui sont le plus déjà en difficulté. Et de porter ce chèque énergie pour 15 millions de familles supplémentaires à 100 euros pour faire face. Mais vous savez, ce qui est terrible, c'est que depuis des années, nous portons l'idée d'investir dans le logement. Là, à Lyon, nous avons des maires qui investissent dans l'isolation des logements. C'est le meilleur moyen, c'est le bouclier le plus protecteur contre les crises énergétiques. Ça permet d'économiser jusqu'à 500-600 euros par an quand on isole les logements. Et nous portons la mesure que ce soit gratuit, ce programme d'isolation, là aussi pour les familles les plus précaires. Nous portons aussi l'idée que les premiers kilowattheures, les premiers mètres cubes de gaz ou d'eau doivent être gratuits pour les familles en difficulté, les familles qui ont le plus de mal. Justement, ça s'appelle de la tarification sociale. Donc vous voyez que notre écologie, elle est profondément sociale. Elle anticipe les chocs énergétiques pour moins consommer et elle permet aujourd'hui d'avoir les moyens effectivement pour les plus précaires, pour les familles les plus impactées, de compenser le choc énergétique.
Alors ça, c'est votre programme. Vous serez peut-être élu président de la République dans 6 mois. Mais là, à court terme, qu'est-ce qu'on fait face à la hausse du carburant, du gaz, de l'électricité? Le gouvernement va lisser la hausse, par exemple, sur les mois à venir. Est-ce que c'est suffisant, là, dans l'immédiat,
non,
à court terme?
Non, c'est pas suffisant, parce que ce que fait, quand on dit qu'on lisse, ça veut dire qu'en fait, ce que les Français ne vont pas payer maintenant, ils le paieront après l'élection présidentielle. Je veux dire, c'est la pire des politiques clientélistes. Nous, ce que nous proposons, je l'ai dit, c'est d'avoir un chèque énergie de 400 euros pour les près de 6 millions de familles pour lesquelles cette crise énergétique, cette crise des prix de l'énergie est la plus difficile.
Donc ça, vous le demandez étendre au gouvernement.
Dès maintenant. Et puis en plus, vous savez, cette mesure, elle est financée immédiatement par les plus de 2 milliards de recettes fiscales en plus liées à l'augmentation des prix de l'énergie. Donc je ne creuse pas les déficits. Simplement, il est invraisemblable que dans notre pays, l'État s'enrichisse aujourd'hui sur les difficultés sociales liées à l'énergie que rencontrent les Françaises et les Français. De la même façon, il faudra revenir sur le fait que quand vous payez du carburant, en fait, vous payez... Vous êtes fiscalisé deux fois, vous êtes taxé deux fois. À la fois, il y a les taxes sur l'énergie et il y a la TVA sur les taxes. Il faudra sortir de ce système de double imposition qui est injuste.
Vous proposez la sortie du nucléaire sur 20 ans. Vous dites que ça coûte trop cher. Mais est-ce que le nucléaire, aujourd'hui, ne nous protège pas justement de la hausse des prix de l'énergie, ne nous protège pas d'une certaine dépendance énergétique envers l'étranger?
C'est exactement le contraire. Une des parties, d'ailleurs, qui explique la hausse du prix de l'électricité, c'est que l'année dernière, il y a eu beaucoup de réacteurs en maintenance et donc on paye un nucléaire qui est en train de vieillir. le nucléaire est la seule énergie au monde dont le coût, depuis 40 ans, ne fait qu'augmenter. Les énergies renouvelables, les coûts baissent de manière extraordinaire très rapidement. Aujourd'hui, s'éclairer, ou si on a un chauffage électrique ou une voiture électrique, utiliser de l'électricité qui viendrait des énergies renouvelables coûte moins cher que l'électricité qui vient du nucléaire. Donc, la transition écologique... Après, moi, je veux le faire de manière responsable. Il n'est pas question de mettre notre économie en difficulté. Moi, ce que je veux, c'est qu'on consomme moins d'énergie, donc on ait des transports collectifs, qu'on ait des véhicules qui consomment moins, qu'on ait des logements qui consomment moins. Donc, pour avoir rendu du pouvoir d'achat aux Français, et puis se déployer des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui des énergies performantes, qui sont moins chères que le nucléaire et qui créent des emplois et des entreprises sur tous nos territoires.
Yannick Jadot, vous êtes à Lyon ce soir pour les journées parlementaires de votre mouvement. Vous aviez promis de bâtir une équipe de France de l'écologie. Alors la semaine passée, il y a 10 jours en tout cas, dans ce studio sur RTL, on s'est dit que ça allait être peut-être un petit peu compliqué parce que nous avons reçu Sandrine Rousseau, que vous avez battue de justesse à la primaire. Tiens, réécoutez-la.
J'ai pas l'impression qu'Yannick Jadot ait perçu l'ensemble de la dynamique. J'ai pas senti qu'il avait entendu l'importance de porter la radicalité comme étant une transformation de notre société, de notre écologie. Économie. Et lui qui se présente comme le grand rassembleur, je lui dis c'est maintenant qu'il faut le prouver. Attention à ne pas perdre une partie de l'électorat, parce que sans cela, on se plante. On se plante collectivement. Donc je dis à Yannick, sois innovant.
Alors Sandrine Rousseau, elle est avec vous à Lyon là aujourd'hui.
Elle est à quelques mètres de moi. Est à quelques mètres de moi avec Delphine Bateau, avec Éric Piolle.
Est-ce que la tension est retombée?
Justement sur la question pour démontrer que l'écologie c'est la solution pour le pouvoir d'achat, comme nous étions il y a quelques jours sur un site industriel des Ferropem pour dire à quel point l'écologie c'est l'industrie nouvelle, l'industrie qui sera ancrée sur nos territoires.
Et vous avez bien conscience qu'il y a plusieurs nuances d'écologie. Est-ce que vous avez pris en compte effectivement les 49% de Sandrine Rousseau à la primaire?
Moi, je prends en compte la diversité, je prends en compte la complémentarité. Et aujourd'hui, nous sommes le seul mouvement politique qui soit rassemblé après avoir eu un processus transparent, ouvert aux Françaises et aux Français, de débat et de désignation de la candidature. Maintenant, la primaire, elle est terminée. Nous sommes rassemblés pour faire campagne. Nous menons campagne auprès des Françaises et des Français, pas pour discuter des prénoms de manière nauséabonde et réviser l'histoire de France.
Faites mais référence à Éric Zemmour.
Mais bien sûr, ça s'appelle du révisionnisme. Hein, quand vous mettez en scène Mengele, quand on sait sa responsabilité dans la Seconde Guerre mondiale et dans le régime nazi, que vous réhabilitez Pétain comme défenseur des Juifs, ça s'appelle du révisionnisme, ça c'est une forme d'antisémitisme. Nous, ce qu'on veut faire, c'est répondre aux préoccupations des Françaises et des Français. Comment trouver un boulot? Comment avoir un service public de qualité à côté de soi? Comment faire en sorte que nos enfants mangent bien à la cantine? Et puis surtout, comment on construit un avenir où il n'y a pas des chocs climatiques toutes les semaines, où il n'y a pas un effondrement de la biodiversité? Comment on protège la vie et l'avenir dans ce pays?
Dernière question, Yannick Jadot. Pour justement faire en sorte que l'écologie triomphe, on s'interroge sur la stratégie. Vous aviez tenté de rassembler en quelque sorte les différents candidats de gauche. Vous êtes très nombreux. Pour l'instant, je sais que tous les candidats à la présidentielle n'aiment pas parler des sondages, mais Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, vous, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, vous êtes régulièrement donné en dessous des 10%. Franchement, il y a des auditeurs de gauche qui doivent nous écouter ce soir et qui doivent se dire quel gâchis.
Vous semblez en douter. Vous semblez en douter.
Du fait que les auditeurs de gauche nous écoutent? Absolument pas. Nous sommes une radio populaire et on est écouté à gauche comme à droite. Mais est-ce qu'il y a
c'est
justement.
C'est pour ça que je me permets. C'est
des auditeurs
permets.
De gauche, sans doute, se demandent en nous écoutant, est-ce que l'union est impossible? Est-ce que nos idées de gauche, finalement, ne vont pas disparaître au premier tour parce que les candidats sont empêtrés dans des batailles d'égo?
Écoutez, vous l'avez dit, moi j'ai tendu la main. Je suis celui qui a réussi à mettre tout le monde autour de la table. Il ne vous a pas échappé que certains candidats, certaines candidates ont plus ou moins joué le jeu, sont pas venus ou sont peu venus. Moi, je garde la main ouverte. Mais ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, face au dérèglement climatique, face à l'effondrement de la biodiversité, biodiversité, face aux inégalités qui explosent, face à cette démocratie qui va mal avec ses débats nauséabonds, c'est l'écologie qui peut construire le rassemblement. C'est au tour du projet écologiste parce qu'il a la constance, la crédibilité, la détermination pour faire face aux défis. Et donc c'est au tour d'une candidature écologiste parce que nous n'avons jamais transigé sur ces défis qui sont, je crois que les Françaises et les Français en sont convaincus, sont aujourd'hui essentiels pour nous et pour nos enfants.
Merci Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle, merci d'avoir été ce soir notre invité sur RTL depuis Lyon et les journées parlementaires de votre mouvement. Merci.
Merci.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Allez, on va marquer une très courte pause et ensuite RTL Soir va se poursuivre avec Laissez-vous tenter dernière, un spectacle complètement fou à la Comédie Française notamment. Et puis on va aussi refaire nos régions. Comme chaque vendredi, la légende française du surf va vous faire découvrir Tahiti, dépaysement garanti. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier.
Bonne fin de journée, bonne fin de semaine. RTL 18h32.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien on va refaire un petit point sur les grands titres de l'actualité avec vous, Marion Calais.
Avec ces mots forts du candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, ce soir sur RTL, il dénonce le révisionnisme d'Éric Zemmour qui réhabilite Pétain en défenseur des Juifs. La mise en examen d'un jeune homme de 22 ans après le piratage informatique des hôpitaux de Paris le mois dernier, les données de près d'1,5 million de personnes avaient été dérobées. Le suspect, opposé au pass sanitaire, voulait démontrer la faiblesse du système informatique de la PHP. Et puis à moins d'un mois de la COP26, le Conseil des droits de l'homme, organisme de l'ONU, reconnaît pour la première fois le droit à un environnement sain et durable. Résolution saluée par les ONG et adoptée à une large majorité.
Merci Marion. Le temps maintenant, Valérie. Soleil, mais fraîcheur.
Ouais, surtout demain matin, on va avoir un petit 4 degrés seulement à Charleville-Mézières, 15 degrés quand même à Bastia. Dans la journée, des températures évidemment un peu plus clémentes. Un soleil souvent généreux, excepté des Pyrénées aux Alpes et de la Méditerranée également. En Corse, il pourrait y avoir 2-3 averses près du relief. Les températures, donc dans l'après-midi, 16 à 24 degrés, 17 pour Mâcon, 18 à Lille, 20 degrés à Paris et Biarritz, 21 pour Nantes et 23 degrés à Toulon.
Merci Valérie.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et vous avez reconnu la petite musique, c'est le moment effectivement de se faire plaisir et de vous offrir de jolis conseils, ceux en l'occurrence de la bande de Laissez-vous tenter, pour occuper soit votre week-end, soit votre soirée, c'est selon, enfin le week-end commence ce soir de toute façon.
On va parler pour vous.
Oui, certes, certains travaillent demain, comme Julia. Julia Molcou qui est avec nous, bonsoir Julia.
Bonsoir Julia, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez quand même si vous travaillez demain, au théâtre pour voir un spectacle qui vous a, je crois, particulièrement plu. Vous nous en dites le plus grand bien depuis hier.
Et c'est peu le dire particulièrement plu. Mais quelle comédie, c'est le titre de ce spectacle aussi fou qu'original, aussi génial que musical, qui se joue en ce moment à la Comédie Française et qui nous prouve une fois de plus que cette troupe du français sait tout faire, absolument tout faire.
Bienvenue mesdames et messieurs à la Comédie Française, vous nous avez tellement manqué. On est tellement contents de vous revoir tous, vraiment, même masqué. Mesdames et messieurs, ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on avait de mieux en boutique. Vous avez bien compris, tout le reste sera pire, oui. Pourquoi nous avons fait ça? C'était le final. On s'est dit, vu que tout change tellement vite, tout ferme tellement vite, les choses variant tellement vite, eh bien nous allons mettre le meilleur tout de suite. Voilà, c'est fait, vous avez vu le meilleur.
Prenez des acteurs géniaux qui donneraient envie de faire de la scène aux plus timides d'entre nous. Saupoudrez de costumes en tout genre, queue de pie, veste à paillettes, chapeau et plumes. Ajoutez-y des airs de comédie musicale de Broadway, de revues françaises et de chansons connues de tous. Liez le tout avec des extraits de pièces et de vie des membres de cette troupe du français sous forme de numéros qui s'enchaînent avec grâce et malice et vous obtenez à coup sûr ce spectacle ébouriffant, mais quel comédie.
J'adore le titre.
Écoutez, je vous assure, c'est une fête comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. Une fête imaginée et mise en scène par Serge Bagdasarian et Marina Hans. Ça se joue à la Comédie Française jusqu'au 3 janvier. Allez-y, j'y retourne avec vous demain, après-demain, tous les jours et en courant tellement c'est bien.
Eh bien, avec plaisir. On a tellement besoin de fêtes après ces années et ces mois difficiles. Merci Julia. Puisqu'il n'y a pas de repos pour les braves, vous revenez donc demain.
Demain matin, 6h-9h avec Stéphane Carpentier.
Avec Stéphane Carpentier et toute la joyeuse bande des matinales week-end. Pour l'heure, là, merci. On va marquer une petite pause dans RTL Soir et on va refaire nos régions dans un instant. Comme chaque vendredi, vous commencez à connaître le programme. 20 minutes de curiosité près de chez vous. Alors, on va s'intéresser pêle-mêle au train de la discorde dans le sud-ouest. On va déguster des quenelles dans un bouchon à Lyon. Et puis, on va s'évader dans un instant avec notre invité Jérémy Flores. C'est le meilleur surfeur français de tous les temps et il vous emmène à Tahiti. À tout de suite.
On refait nos régions, c'est dans un instant sur RTL.